Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de InVinoRadio.tv, à mes côtés Hélène Piau, bonjour Hélène.
Bonjour.
Et Philippe Forbach, bonjour Philippe.
Bonjour.
On accueille Laure Gasparotto, journaliste et auteur, pour son billet d'humeur. On parle aujourd'hui le vin de demain, il y a un bon bouquin sur ce sujet Laure. Hein.
Alors il y a le Quel vin pour demain, le vin face aux défis climatiques. C'est un livre qui vient de sortir là au mois de septembre aux éditions Dunod, écrit par Jérémy Kuckermann, Hervé Quénol et Michel Bouffard. Alors Jérémy, je vais présenter quand même les auteurs.
Absolument.
Jérémy Kuckermann est responsable de la formation à Kedge à l'école
Bordeaux.
De Bordeaux.
Couplé Michel... avec Marseille d'ailleurs.
Ah ça, je l'ignorais, heureusement que...
Les deux écoles.
Et qui est de mémoire Master of Wine aussi d'ailleurs.
Il est Master of Wine comme Michel Bouffard qui vient tout juste d'être Master of Wine et qui est canadienne. Donc il y a un côté international aussi au livre qui est très intéressant. Et puis Hervé Quénol est climatologue au CNRS, c'est lui qui a écrit les deux premiers chapitres du livre. Qu'il faut quand même traverser de manière très concentrée parce que ce sont des chapitres qui résument un peu la situation climatique mondiale. Et voilà, en fait, ce livre, pour
c'est
moi...
C'est alarmant, est... alarmiste ou quoi? Parce que on dit plein de choses, hein, Laure.
C'est alarmiste, mais en même temps, pour moi, ce livre est précieux parce qu'il rassemble aujourd'hui toute la question sur l'avenir du vin et comment aujourd'hui, dans le monde, les vignerons y répondent. Et il me paraît, alors les auteurs s'excusent au début en disant qu'ils ne sont pas exhaustifs, et pourtant il me paraît déjà très très complet. On a des exemples du monde entier, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, de Corse, de Californie. Par exemple, là, Jean-Claude Abatucci, comment fait-il? Lui, ça fait très longtemps qu'en Corse, il répond à la question du changement climatique en revenant à la diversité des cépages. Voilà. En tout cas, ce qui pourrait être alarmiste, c'est qu'en effet, sans doute, la géographie des vignobles de demain ne sera peut-être sans doute pas celle d'aujourd'hui.
Donc la Bretagne et la Normandie peuvent avoir de beaux jours
voilà,
en deux.
Voilà, donc il semblerait peut-être qu'on puisse monter carrément à 200 km au nord des vignobles actuels et qu'en effet, autour de Paris, même dans les Hauts-de-France, on puisse trouver prochainement...
Xavier Bertrand va être content. Mais qu'est-ce qui va se passer selon ce livre dans le sud, par exemple, de l'Espagne à l'Italie, où là, déjà, on arrive à trouver des vins qui sont très, très chaleureux. Hein.
Il y a la question de l'eau. C'est une question centrale dans le livre. Alors que dans le Nouveau Monde, on arrête d'irriguer. Le Nouveau Monde a créé son vignoble avec l'irrigation. Et à l'inverse des Français, eux arrêtent quand nous, on commence. Et dans le sud, en effet, cette question est centrale d'irrigation. Donc,
Pensez alors qu'il faut le faire ou pas?
Ça dépend. Par exemple, moi qui étais dans les terrasses du Larzac,
absolument,
qui connais très très bien ce vignoble, irriguer même un hectare de terrasse du Larzac, ça coûte 10 000 euros. Donc,
donc c'est cher d'irriguer.
C'est très cher d'irriguer. Donc il y a des vignobles pour lesquels, en effet, ça vaudra le coup d'irriguer et d'autres où il faudra abandonner peut-être même l'idée.
Et la raison est uniquement économique, Philippe Forbach, ou est-ce que ça change le vin? C'est-à-dire que le goût du vin va être différent quand on a mis un peu d'eau ou pas? Indépendamment des problèmes économiques, effectivement, est important alors.
Le problème économique est central. L'évolution du goût est une question qu'on peut se poser aussi. L'expérience de l'or peut peut-être nous apporter un éclairage, mais on peut estimer que ça peut modifier un peu. En tout cas, ce qui va être modifié, c'est le profil du millésime, puisqu'on intervient à des moments où la nature ne serait pas intervenue, pour pallier effectivement un manque. Donc ça peut, sans modifier peut-être foncièrement le vin, mais le profil du millésime sûrement.
Hélène, vous en pensez quoi? C'est-à-dire que si on met un petit peu d'eau là pour que le raisin grossisse plus, hein?
Il faut voir, mais bon, dans l'absolu, c'est mieux quand on arrive à intervenir directement sur le raisin plutôt que de trafiquer derrière.
Alors oui, là, parce que ça aussi, il ne faut pas le dire, mais il faut le dire quand même. Hein.
Les solutions qui sont, par exemple, apportées, qui peuvent laisser la fraîcheur dans le vignoble, en dehors de l'irrigation, parce qu'il n'y a pas que l'irrigation qui apporte la fraîcheur à la plante, c'est justement bien préparer le terrain. Il parle vraiment beaucoup de la préparation des terrains. Quelque chose qu'on ne fait pas assez, par exemple, c'est entre deux plantations de vignes, on n'attend pas assez longtemps. On attend souvent un an, voire deux, alors qu'on devrait attendre 5 à 7 ans que la terre se régénère, que ces viroses soient éliminées. Ça fait des millénaires que la jachère existe. Et puis, toujours pour ces problèmes économiques, les vignerons n'attendent pas assez longtemps. Or, les vignerons qui attendent, en effet, ont cette réserve d'eau qui peut être là. D'abord, il faut trouver des nappes phréatiques.
Déjà, il faut trouver de l'eau.
Déjà, trouver de l'eau. Mais par exemple, il y a aussi tout un... tout un chapitre dans le livre sur, sur Lilian Berillon, avec lequel j'avais écrit d'ailleurs un livre, sur le fait de planter des vignes enracinées, d'attendre pendant 3 ans que les vignes fassent leurs racines dans le sol pour vraiment s'approprier le climat. Et on greffe 3 ans plus tard. Et donc, cette vigne-là, théoriquement, enfin pas théoriquement, mais en pratique, même je l'ai vue au domaine Haute, au Clos Mireille, c'est exactement ce qu'ils font depuis 25 ans, des racinés, j'ai vu en bord de mer, et ces vignes-là résistent mieux que les autres aux sécheresses. Mmh.
Philippe Orbach, un commentaire, parce que c'est quand même une bonne nouvelle ce que nous explique Laure, hein. Il y a des solutions.
Il y a des solutions. Ça, c'est très positif. Il y a une autre peut-être piste qui est évoquée de plus en plus, c'est aussi l'évolution de l'encépagement. De revenir finalement sur des cépages anciens, traditionnels, qui étaient moins demandeurs peut-être d'eau, qui avaient peut-être du mal à mûrir à l'époque, c'est pour ça qu'on les a abandonnés. Mmh. Et aujourd'hui, on voit que c'est une richesse d'avoir des cépages peut-être un peu plus tardifs, avec des acidités légèrement plus fortes, mais qui permettent quelque part d'équilibrer et d'aller moins chercher ce que l'on subit aujourd'hui, c'est-à-dire cette montée en concentration de sucre qui donne bien entendu beaucoup d'alcool à la fin.
Oui, parce qu'à la fin, alors, c'est vrai qu'on voit dans certaines régions, on voit des 15 degrés, des 15 et demi, parfois du 16 degrés, quoi. Et ça, alors, indépendamment du goût du vin, le goût du consommateur, il part en courant, quoi. Parce que c'est dès qu'on dépasse psychologiquement les 13 degrés, c'est déjà pas mal, quoi. Dès qu'on est à 14 ou 15, qu'est-ce qu'on peut faire?
Parce qu'il
y a des machines, qui existent aussi, non? Philippe Orbach, il y a des machines qui existent pour baisser un peu le degré.
Ça permet de désalcooliser effectivement le vin, en tout cas.
Mais en désalcoolisant, on déstructure aussi le vin et ça peut se ressentir.
Ça peut se sentir
le vin. Quand on goûte les deux, c'est vrai qu'il n'y a pas photo, comme on dit. La bonne nouvelle, c'est quoi alors?
Alors, la bonne nouvelle du livre, c'est qu'en effet, il y a énormément de gens qui pensent, qui réfléchissent, qui agissent.
Et des gens intelligents,
demain,
en plus.
Gens intelligents. Et en effet, le degré du vin est une question très importante parce que personne ne veut boire des vins à 17 degrés. Mm-hmm. Mais quand on voit là les solutions qui sont apportées, par exemple, un des exemples cités, c'est un vigneron qui peut récolter un tiers de sa vendange très en amont de la maturité. C'est-à-dire, par exemple, quand cette vendange est à 8 ou 9 degrés,
d'accord,
il peut récolter un tiers d'une vendange à 8 ou 9 degrés, la vinifier et attendre que les deux tiers restants soient...
Et assembler après.
Et assembler ensuite les
deux. Ça, c'est pas mal, ça.
Voilà, donc, il y a plein de solutions. Beaucoup de gens pensent, et surtout, ce livre rassemble toutes ces réflexions. Mm-hmm. Et ce qu'il faut plus que jamais, c'est se parler. Dans le monde entier, il y a des réflexions, se parler de l'Australie à la Californie en passant par la France, parce que plutôt que de perdre du temps, parce que la chose la plus grave, c'est que non seulement le climat change, mais c'est qu'il s'accélère de manière brutale et qui nous étonne tous.
Très bien. Vous nous rappelez peut-être le titre, l'éditeur et le prix, Laure, hein.
Alors, c'est Quel vin pour demain? Le vin face aux défis climatiques, c'est aux éditions Duno, par Jérémy Kuckermann, Hervé Quénol et Michel Bouffard. Et le livre coûte 22,90€.
Ouais, super.
J'aime beaucoup les belles perspectives du titre, puisque Quel vin pour demain, ça veut dire qu'il y aura du vin demain.
Ça, ouais, c'est déjà pas mal, quoi. Merci beaucoup, Hélène. Merci également, Laure et Philippe. Je rappelle qu'on retrouve toutes les chroniques sur le site invinoradio.tv.